L'actualité des idées aujourd'hui, pandémie et biodiversité, deux phénomènes inséparables. On en parle avec notre invitée, l'écologiste Anne-Larry Gaudry, secrétaire exécutive de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Le titre est un peu long, il se résume parfois avec ce sigle, IPBS. Si on ne prend pas garde à la biodiversité, les pandémies vont se multiplier. Ce sont les conclusions d'un rapport alarmiste et alarmant du groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité, rendu il y a quelques jours. Bonjour Anne-Larry Gaudry.
Bonjour.
Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Comment expliquer ce lien entre pandémie et biodiversité? Pourquoi prévenir les pandémies passe-t-il aussi par la préservation de la biodiversité?
Eh bien, en fait, l'un des points très importants de ce rapport, et peut-être sa grande originalité pour le public, c'est le fait qu'il replace ces pandémies, ces maladies émergentes dans leur contexte écologique. On pense souvent aux pandémies simplement en termes médicaux, si vous voulez. Et ce que le rapport explique vraiment, c'est le lien fort entre ces maladies et l'environnement. Et il décrit en particulier comment ces maladies émergent de l'environnement et se retrouvent parmi les populations humaines, en fait.
Ce rapport, il a été rédigé dans l'urgence. Il intervient un mois après un autre rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique. Pourquoi ce rapport-là, aujourd'hui, sur ce lien entre pandémie et biodiversité ?
Eh bien, disons que le travail de l'IBES, normalement, s'inscrit dans le temps long. Si vous voulez, on se donne normalement, comme vous venez de l'indiquer, plusieurs années pour faire un travail de fond qui analyse l'ensemble des données scientifiques sur une question particulière, toujours en lien avec la biodiversité. Mais cette fois-ci, il y a vraiment eu de la part de la gouvernance de l'IBES, si vous voulez, la volonté de produire de manière rapide, dans le contexte évidemment de la pandémie qu'on connaît, un rapport qui éclairerait en fait ce lien important entre pandémie, leur origine dans l'environnement, pour pouvoir peut-être également fournir des pistes d'action qui sont différentes des pistes médicales, qui se placent plus en amont, avec un accent sur la prévention dont on va peut-être parler.
Oui, parce que c'est tout le paradoxe, en fait, aujourd'hui, que vous montrez, soulignez dans ce rapport, c'est que pandémie et biodiversité sont liées, c'est un état de fait qu'on va essayer de comprendre avec vous, mais la pandémie est donc la priorité qui a été mise sur les questions sanitaires, médicales, puis économiques et sociales, font passer complètement à l'arrière-plan cette question de la biodiversité, alors qu'il est urgente de la laisser sur le devant de la scène pour éviter que d'autres pandémies se produisent à l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ce qui est écrit dans ce rapport, réduire l'empreinte humaine sur le monde animal? Pourquoi est-ce qu'il faut la réduire et par quoi ça passe?
Eh bien, peut-être qu'il faut déjà expliquer un petit peu comment les pandémies émergent de l'environnement et se retrouvent chez nous, chez les humains, pour ensuite expliquer quels sont les facteurs qui causent ces pandémies. Alors, disons de manière très 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 schématique, en fait, la quasi-totalité des pandémies qui sont connues, comme le virus du SIDA par exemple ou le Covid-19 maintenant, sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des virus qui sont présents chez des animaux hôtes. Donc ces virus ne peuvent pas vivre seuls, ils sont toujours sur des animaux comme des mammifères, les chauves-souris, les rongeurs par exemple, ou bien aussi chez des oiseaux. Donc on trouve ces animaux infectés en grande partie dans des régions qui sont à forte biodiversité, en général souvent dans les forêts tropicales où la flore et la faune sauvage sont très diversifiées, et également, et c'est vraiment ça le facteur clé, des endroits où les populations humaines sont en contact accru avec la faune et la flore. Et ce qui se passe en fait, c'est que ce sont les activités humaines qui permettent au virus de se transmettre depuis ces animaux hôtes jusqu'aux humains en favorisant les contacts entre les êtres humains et ces animaux infectés. Alors, comment est-ce que quelles sont ces activités donc qui permettent d'augmenter, de favoriser ces contacts? En premier lieu, tout ce qui concerne l'utilisation des terres, en particulier la déforestation, pour faire place bien souvent à l'expansion agricole, pour l'élevage du bétail ou pour l'urbanisation en particulier. Donc le déboisement à grande échelle, c'est vraiment un des grands facteurs qui cause ces contacts plus importants et qui va ensuite favoriser le débordement, en anglais on dit spillover, entre ces maladies qui jusqu'à maintenant étaient présentes mais de manière contrôlée dans l'environnement et puis les populations humaines. Et puis le deuxième facteur très important, en plus de cette utilisation des terres, c'est le commerce des espèces sauvages dont je pense qu'on va parler, qui a été multiplié énormément au cours des dernières années, et puis donc qui permet la circulation de ces espèces sans aucun contrôle vétérinaire de par le monde et qui permet donc la propagation de ces maladies.
Ce que vous appelez les zoonoses, donc ce sont ces
Les zoonoses,
maladies, hein, les zoonoses, ces
c'est
maladies
ça.
infectieuses qui sont
C'est ça.
transmises par un animal à l'homme, hein, et vous
C'est
dites
ça.
le VIH, on l'entend moins souvent, c'est le cas bien sûr du ou de la Covid-19, mais aussi précédemment d'Ebola ou du SARS de 2002. On va effectivement comprendre comment ça passe de l'un à l'autre et comment réduire l'empreinte humaine, hein, sur le monde animal, en quoi il y a urgence là-dessus, mais juste pour confirmer ce que vous êtes en train de nous dire, cette urgence sanitaire et les plans de relance économique sont efficaces jusqu'à un certain point. Ils ne le seront jamais entièrement s'ils ne sont pas complétés, à vous entendre, par un plan d'urgence et de sauvegarde de la biodiversité. Depuis quand les scientifiques alertent-ils sur cette question, Anne-Marie Gaudry?
Oh, alors les scientifiques alertent sur cette question depuis bien avant l'établissement de la Convention sur la diversité biologique qui date du sommet de la Terre de Rio en 1992, puisque c'était l'alerte des scientifiques sur la perte de biodiversité, sur l'accroissement de l'extinction des espèces qui avait mené cette année-là, donc en 1992, à l'établissement de cette grande convention pour justement mettre en place des instances de discussion et des mesures, des politiques pour pouvoir corriger les problèmes liés à la perte de biodiversité. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier, hein. Et je dirais même que la recherche sur ce lien dont on vient de parler entre pandémie et biodiversité, c'est également une recherche qui fait l'objet de publications depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, ça n'est pas quelque chose, toutes ces idées, ce ne sont pas des idées qui sont nouvelles au sein de la communauté scientifique.
Rio, vous diriez, Rio 1992, le sommet de la Terre, vous diriez, c'est le moment où la biodiversité est devenue une question politique, hein, aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr, aux côtés d'ailleurs du changement climatique, qui est l'autre grande convention qui a été signée au sommet de la Terre à Rio, également en 1992.
Et on peut dire d'ailleurs que l'IBES, cette plateforme intergouvernementale pour laquelle vous travaillez, dont vous êtes la secrétaire exécutive aujourd'hui, née plus tard, est un peu le GIEC de la biodiversité, si on veut faire ce rapprochement avec le réchauffement climatique.
Exactement, on le fait souvent d'ailleurs, ce rapprochement, puisque l'IBES a été fortement inspiré par le GIEC. Hein. L'IBES se situe de la même manière que le GIEC à l'interface entre science et politique pour constituer le bras scientifique, si vous voulez, des gouvernements et de la Convention afin de fournir de manière régulière un état des lieux sur les connaissances scientifiques en appui à la décision politique.
1992, on va revenir au sommet de la Terre de Rio, ou plutôt à sa clôture, avec le regret notamment d'un certain nombre de pays en voie de développement de voir que les mesures imposées, les mesures indispensables, ne sont pas financées, et surtout qu'il n'y a pas de calendrier contraignant pour les pays industrialisés qui auraient dû être au premier rang de l'application de ces mesures.
Le méga sommet de l'environnement aura su convaincre le banc et l'arrière-banc des nations à venir à Rio, le signe d'une réelle prise de conscience de la dimension planétaire des dommages écologiques. Mais Rio, c'est surtout la signature par une majorité d'États des deux conventions sur le climat et la biodiversité, l'adoption d'une déclaration sur la forêt et du fameux agenda 21 qui énumère les actions les plus urgentes pour le 21e siècle, un bilan globalement positif. Seuls le Japon et la CE ont promis d'augmenter leur aide et annoncer des chiffres précis. Le tiers-monde, par la voix du Pakistan, souhaitait que les pays riches s'engagent formellement à consacrer 0,7% de leur PNB d'ici l'an 2000 à l'aide au développement. Nous allons maintenir la pression. Nous ne sommes pas au bout du chemin, nous n'en sommes qu'au début. Nous allons faire notre maximum.
Dans l'immédiat, et alors que s'achève le sommet de la Terre, l'heure a sonné de passer à l'action et de rendre effectivement indissociables développement et préservation de l'environnement.
Voilà, on peut parler déjà des manques, des faiblesses de ce sommet, mais le point fort, c'est vraiment l'apparition en 1992 de ce mot biodiversité qui jusqu'ici était presque pas référencé, en tout cas dans ces grands sommets internationaux. Vous y étiez, vous, Anne-Marie Gaudry, à ce moment-là, en 92 à Rio?
Non, moi je n'étais pas à Rio, j'étais encore scientifique, donc je faisais un séjour postdoctoral aux États-Unis, en Californie en fait. Je commençais un petit peu à m'intéresser à la manière dont mon travail pourrait ou non contribuer à l'élaboration de politiques, donc je commençais déjà un petit peu à m'intéresser à ce lien entre science et politique, mais je n'avais pas encore franchi le pas pour me consacrer davantage à cette interface science politique.
Alors c'est encore fébrile, mais c'est le début à ce moment-là d'une prise de conscience mondiale sur cette question de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on appelle exactement d'ailleurs biodiversité? Qu'est-ce que ça regroupe?
Et la biodiversité, c'est la diversité du monde vivant dans son ensemble. Donc on considère, et c'est la définition de la Convention sur la diversité biologique elle-même, en fait, trois niveaux. On parle d'abord de diversité génétique, ce qui correspond à la différence entre les individus d'une même espèce, comme par exemple tous les êtres humains au sein de l'espèce humaine ont une diversité génétique entre eux, tous ensemble. Ensuite, on parle de la diversité entre espèces ou diversité spécifique. Donc là, c'est l'ensemble de toutes les différentes espèces. On sait par exemple qu'on a à peu près 8 millions d'espèces de plantes et d'animaux à la surface de la Terre. Et puis le troisième niveau, c'est la diversité écosystémique. Donc là, c'est l'ensemble de tous les écosystèmes dans leur grande diversité, en partant par exemple de la toundra dans l'Arctique, dans les déserts, dans différents endroits de la planète, ou encore les forêts tropicales. Donc, tous ces niveaux mis ensemble forment la grande diversité du monde vivant. Donc, la biodiversité, c'est le monde vivant dans toute sa diversité, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a eu, depuis ce jour, depuis 92, des sommets, des grandes réunions comme ça de gouvernance mondiale où des mesures chiffrées ont été annoncées avec des sanctions concernant la biodiversité ? En cas de non-respect des engagements par les pays?
Alors, il y a eu beaucoup de ces réunions, bien évidemment. Ce qu'on appelle la COP, la conférence des parties, c'est-à-dire les réunions régulières de l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des gouvernements qui sont membres de la Convention sur la biodiversité, s'est réuni environ une fois par an, de la même manière que la COP sur le climat se réunit également à peu près de manière annuelle. Donc des réunions, il y en a eu beaucoup, avec des réunions préparatoires, donc il y a vraiment eu énormément de réunions. Alors ensuite, et c'est d'ailleurs un des problèmes de la mise en application de ces questions liées à la biodiversité, il y a eu en 2010 un plan stratégique 2010-2020 sur la biodiversité avec 20 objectifs qui avaient été approuvés à Nagoya, j'y étais cette fois-ci. Donc en se dotant de 20 objectifs pour 2020, donc pour cette année, ils arrivent à échéance cette année. Certains, mais très peu, étaient quantifiés. Le rapport de l'IBES qui était sorti l'année dernière, hein, l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, avait conclu qu'aucun de ces 20 objectifs ne serait atteint en 2020, ce qui vient d'être confirmé cette année par le rapport de la Convention sur la diversité biologique qui vient juste de sortir il y a un mois, vous venez de le signaler en fait. Donc, un des problèmes, c'est le fait que ces objectifs n'étaient pas quantifiés, mais certains étaient quantifiés, on peut peut-être en parler, en particulier le pourcentage d'air protégé. Et là, le problème a été, et c'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans votre petit jingle, là, sur votre petit reportage sur 1992, n'a pas été accompagné de mesures permettant d'aider en particulier les pays en voie de développement à mettre en place des mesures suffisantes. Donc, pour ces deux raisons, le fait qu'il n'y ait pas d'aspect quantitatif, si vous voulez, de quantification, et puis le fait qu'il n'y ait pas d'engagement financier des pays riches aux côtés des moins riches, la grande question de la biodiversité n'a pour l'instant pas fait suffisamment de progrès, et c'est vraiment un euphémisme.
Des paroles, mais pas suffisamment d'actes encore pour l'instant. On se souvient, il y a plus d'un an, du président Emmanuel Macron recevant les experts de l'IBES à l'Élysée pour parler de cette question-là. Un discours volontaire, hein, d'ailleurs. On était le 6 mai 2019.
Au niveau européen, nous devons mobiliser. Nous intégrerons la biodiversité à nos objectifs, en particulier en matière agricole et dans les critères justement de négociation de la prochaine PAC. Et je souhaite que des objectifs très concrets comme la lutte contre le plastique puissent être intensifiés au niveau européen. C'est le bon niveau pour réussir à avoir des résultats concrets. Et puis enfin, c'est au niveau international que nous allons mener cette action de manière très concrète. Nous ferons tout pour que la COP biodiversité qui se tiendra en Chine au deuxième semestre 2020 puisse être l'équivalent de la COP de Paris sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est cet objectif que nous devons nous assigner. Et donc, nous avons un an et demi sur le plan international pour faire progressivement monter ces objectifs et obtenir des engagements clairs sur le plan international.
Alors là encore, vous y étiez, hein, Anne-Larie Gaudry. Ces engagements, vous les avez entendus prononcer. Juste dans cette intervention, le président Emmanuel Macron parle d'une COP qui doit se tenir en Chine au deuxième trimestre 2020. Soit elle est passée complètement en dessous des radars médiatiques, soit quoi? Elle a été décalée pour cause de pandémie?
Exactement, c'est la deuxième raison. Elle a été décalée pour cause de pandémie et elle se tiendra donc l'année prochaine en Chine, si c'est possible, donc en octobre 2021, aux côtés d'ailleurs de la COP26 du changement climatique qui a également été repoussée d'un an et qui se tiendra également à la fin de l'année 2021, mais elle au Royaume-Uni, en Écosse.
Alors vous faisiez partie en mai 2019 de la délégation reçue par le président Macron. Qu'est-ce que vous avez demandé et où en sont vos demandes aujourd'hui? C'est-à-dire un an et demi après, alors que le coronavirus est certes passé par là, mais où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, un peu des objectifs et des réponses qui leur ont été apportées depuis?
Alors, en fait, le 6 mai 2019, nous étions allés avec un petit groupe d'experts en répondre à l'invitation du président de la République pour lui remettre les conclusions de l'évaluation mondiale de la biodiversité des services écosystémiques qui venait d'être approuvée par les 137 gouvernements membres de l'IBES, donc à Paris, à la grande réunion plénière de l'IBES qui venait de s'achever. Donc nous lui avions fait un résumé de l'ensemble des conclusions de l'IBES, si vous voulez. Il y en avait cinq que je peux résumer très très rapidement. La détérioration de la biodiversité était maintenant documentée dans ce rapport à une échelle, à une vitesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on parlait d'un million d'espèces, si vous vous rappelez, de plantes et d'animaux en voie d'extinction parmi à peu près 8 millions, le nombre total d'espèces. La deuxième conclusion était que ceci avait un impact important sur les contributions que la nature fournit à nous-mêmes, aux populations humaines. On parlait en particulier de perte des services de pollinisation, de réduction de la capacité des écosystèmes à réguler la qualité de notre air ou la qualité de notre eau. On disait à l'époque déjà que les 20 objectifs de Aichi ne seraient pas atteints. On disait que les causes étaient connues et on citait les 5 grandes causes de perte de la biodiversité. Puis on disait finalement, et peut-être le plus important, que des solutions existaient. Et nous lui avons parlé de ces solutions, en particulier d'améliorer les pratiques agricoles. Nous avons parlé de l'agriculteur, de l'agriculture comme étant vraiment le secteur au cœur du problème et de la solution à la fois. Nous avons parlé de la pêche, des pêcheries, du changement climatique, de la pollution. Et le président de... Alors, nous n'avons rien demandé, si vous voulez, parce que l'objectif de l'IBES, c'est de synthétiser et d'évaluer les connaissances scientifiques. Donc, nous lui avons expliqué quelles étaient ses conclusions. Mais nous avons également indiqué que la nécessité, de manière générale, d'élever le discours et le niveau d'ambition et la volonté politique sur la biodiversité, et en particulier de la mener au même niveau sur l'agenda politique que le changement climatique. Et puis également, nous lui avons indiqué la nécessité de considérer ces deux thématiques, biodiversité et changement climatique, en même temps, pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer, qui sont liées au fait que certaines des solutions envisagées pour le changement climatique pourraient se faire aux dépens de la biodiversité. Donc nous lui avions fait l'état général, un état un petit peu général de la biodiversité et des solutions pour améliorer la situation.
Et ben venons-en justement avec vous aux solutions. Anne Larigaudry, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h30, secrétaire exécutive de l'IBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Des pandémies plus fréquentes et qui pourraient s'avérer plus meurtrières à l'avenir si on n'envisage pas maintenant, rapidement, des solutions à ces questions. Vous l'écrivez dans ce rapport qui a été rendu par le groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité. L'érosion continue du vivant risque d'entraîner une potentielle ère des pandémies. Alors comment faire pour ne pas entrer à marche forcée dans cette ère qui n'aurait rien de positif, rien de réjouissante et qui appelle à repenser notre rapport avec les autres formes de vivant? Quelles sont les solutions? La première d'entre elles, et vous le rappelez, ce serait de prédire et de prévoir. La prévention se coûterait moins cher et serait bien plus efficace que la réaction, Anne Larigaudry. Mais comment faire pour prévenir?
Exactement. Alors, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du phénomène et de son aggravation potentielle, on estime actuellement à 1,7 million le nombre de virus qui sont présents chez les mammifères et les oiseaux, dont 600 à 800 000 susceptibles d'infecter l'être humain. Donc, il s'agit vraiment de mettre en place des solutions qui tiennent compte de l'ampleur de la menace potentielle. Donc, une des premières solutions consisterait à accroître rapidement, donc à investir massivement dans la recherche afin de mieux connaître ces virus et de mieux connaître la manière dont ils émergent depuis les animaux hôtes jusqu'aux êtres humains. Il s'agirait en particulier de mettre en place des systèmes de surveillance, si vous voulez, pour mieux comprendre où se trouvent les virus. Donc, effectuer des échantillonnages dans différents endroits de la planète en continu, mettre en place des bases de données, des réseaux d'acteurs qui se tiendraient au courant, qui échangeraient sur les méthodes, sur les bases de données. Un petit peu essayer d'écouter, de mettre les virus sur écoute, si vous voulez, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire pour pouvoir prévoir les points chauds d'émergence, hein, afin de pouvoir juguler ces infections avant qu'elles ne se propagent. Alors, évidemment, 1,7 million, ça peut paraître...
Énorme.
Énorme, ouais. Voilà, infaisable. Mais bon, ce que nous disent les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, ils nous disent, voilà, on a 1,7 million d'espèces. Ils ont estimé que pour identifier l'ensemble des génomes de tous ces virus, il faudrait à peu près 1,2 milliard. Et donc, ils nous disent, voilà, c'est 1,2 milliard sur 10 ans, ça fait à peu près 120 millions par an. Et avec ça, on pourrait connaître les séquences génétiques de ces virus et avoir plein d'informations sur la manière dont ils peuvent ou non pénétrer dans les cellules humaines. Et ça permettrait vraiment d'avoir des informations précieuses. Donc, c'est vraiment le premier faisceau, mieux connaître en investissant à la fois dans la recherche et puis dans des systèmes de monitoring, de surveillance des maladies infectieuses. Ensuite, et c'est évidemment très très important, il faut agir sur les causes. Alors, à la fois les causes directes et puis les causes indirectes. Alors, les causes directes, on a parlé du commerce des espèces sauvages.
Alors, juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai que depuis le début de la pandémie de coronavirus, on a tendance à en vouloir beaucoup aux pangolins et à la chauve-souris. Or, peut-être c'est aussi ça qu'on peut comprendre à travers cette nécessaire interdiction que vous évoquez du commerce des espèces sauvages. C'est que si on les laissait à leur place, si on prenait garde à cela, déjà, on éviterait peut-être pas mal de transmissions.
Exactement. Alors, le rapport ne parle pas d'interdiction, mais il dit qu'il faut mieux réguler le commerce légal et également faire appliquer la loi sur le trafic illégal des animaux sauvages. Ce qu'il faudrait également faire, c'est que il faudrait arriver à mettre en place des mesures sanitaires liées à ce commerce d'espèces sauvages. On n'arrivera pas, et d'ailleurs ça n'est pas du tout le but, à interdire ce commerce, évidemment, puisque ces espèces sauvages, elles sont commercialisées pour différentes raisons. En particulier, elles sont liées à la consommation dans les pays développés, la consommation au niveau de des fourrures, par exemple, mais il y a bien d'autres types de consommation. La consommation au niveau de la viande, qui est responsable d'une partie de la déforestation, en particulier en Amazonie. Donc, il ne s'agit pas, ou encore le commerce lié aux animaux de compagnie. On estime par exemple qu'aux États-Unis, chaque année, il y a entre 10 et 20 millions d'animaux qui sont importés légalement comme animaux de compagnie, les reptiles, les oiseaux, les rongeurs. Donc tous ces animaux sont importés sans aucune mesure sanitaire ni vétérinaire. Donc ça serait par exemple quelque chose à vraiment mettre en place. Ce contrôle et cet aspect vétérinaire du commerce des espèces sauvages, mettre en place des mesures de surveillance, contrôler les marchés, en particulier les marchés d'animaux sauvages, hein, puisqu'on a vu que ce marché de Wuhan, mais bien d'autres, était lié à certaines émergences, mettre en place des mesures d'hygiène, établir la chaîne du froid. Bien souvent, on a des animaux qui sont vivants dans les marchés parce qu'il n'y a pas de moyens de réfrigération, et donc c'est la seule manière d'avoir de la viande fraîche, si on peut dire.
Ça semble assez vertigineux, hein, quand même, tout ce que vous dites là. Oui. On se rend compte que un bout de chemin a déjà été fait, mais que la route reste encore très longue. On terminera là-dessus et sans stigmatiser ou pointer aucun pays. On sait que, quand même, l'épidémie de coronavirus est partie de ce marché de Wuhan en Chine. La prochaine COP se tiendra justement en Chine. Est-ce que c'est plus que symbolique? Est-ce que c'est important aussi que tous les pays et les premières puissances mondiales, notamment, se responsabilisent?
Il est important que toutes les puissances se responsabilisent. Il faut également bien garder en tête que une partie de cet échange d'espèces sauvages est vraiment liée également au mode de consommation dans les pays riches dont on vient de parler. Donc je dirais qu'il n'y a pas de pays qui sont plus responsables que d'autres, d'une certaine manière, qu'on est tous ensemble liés. Par ces questions de pandémie, on a bien compris que toutes ces questions de pandémie étaient liées à une augmentation des échanges de personnes, à la circulation des marchandises. Donc il faut vraiment s'attaquer ensemble à cette grande question.
Merci beaucoup, merci Anne-Larry Gaudry d'être venue nous alerter sur ce sujet sur lequel vous avez travaillé avec vos confrères, ce groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité. Merci d'être venue nous expliquer, d'avoir pris ce temps. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félicie Fogère avec Somaya Dabesh. Demain, retrouvez pour une grande table critique Lucille Como. Je vous dis rendez-vous quant à moi ce samedi à 17h pour un nouveau numéro d'En français dans le texte. Et on se retrouve la semaine prochaine dès lundi à midi pour une nouvelle semaine de grande table.